Vous écoutez Radio Capi ? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end souvenir avec moi. Samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Nous avons déjà en ligne, Jules Loolo, qui nous appelle, qui vient de Kananga, au Kasaï occidental. Jules, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Merci d'écouter Radio Capi. Vous avez une question sur l'intégration du virus dans les cellules.
Précisément, j'aimerais poser à l'invité cette question.
Oui, allez-y.
Pour ce qui est de la transmission génétique et vraie du virus de la mère à l'enfant, comment se fait l'intégration du virus dans les génomes et des cellules de la lignée germinale? Je vous remercie.
Voilà, si vous pouvez reprendre, Jules.
Oui.
Oui, là vous sortez très mal, on vous capte difficilement. Voilà, éloignez-vous peut-être de votre poste récepteur, hein, parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne.
Oui. J'aimerais savoir comment se fait l'intégration du DNA proviral dans les génomes des cellules de la lignée germinale.
Bon voilà, c'est pour ma technique, moi je ne saurais pas répondre, peut-être le docteur l'a compris. Il y a des germinales, il y a des DNA virales. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez dire concrètement, mais comment se fait l'intégration du virus dans les cellules. Donc nous avons plusieurs cellules dans les corps humains, comment le virus s'introduit.
Merci pour la question. Je vois que
comment vous êtes
dans du domaine.
Tout à fait.
Les auditeurs qui nous suivent, je ne pourrai pas entrer en détail, je ne peux pas donner des détails techniques, mais si vous voulez, de manière simple, ce que je pourrais répondre pour que tous les auditeurs puissent comprendre, pour que le virus puisse pénétrer dans la cellule
de l'enfant. Nous parlons de l'enfant, donc
c'est la même chose pratiquement. C'est pratiquement la même chose. Pour que le virus puisse pénétrer dans la cellule, il faut qu'il y ait des récepteurs. Le virus a ses récepteurs. De l'autre côté, au niveau de la cellule, nous avons des récepteurs et des co-récepteurs. Et lorsqu'il y a fusion, les virus entrent dans la cellule de l'hôte, de l'homme si vous voulez. Et en entrant, les virus qui est un ARN. La cellule humaine, nous avons... à l'intérieur du noyau, nous avons l'ADN. Là, je ne parle pas aux scientifiques, je parle à tout le monde pour une meilleure compréhension. Et l'ARN ne pourra pas s'intégrer dans les génomes humains, parce que dans le noyau, nous avons l'ADN. Et le virus, quand le virus pénètre dans la cellule, le virus pénètre avec ses protéines, avec ses enzymes. Et c'est les enzymes en question ont la capacité de transformer l'ARN, qui est un simple brin, en ADN proviral dont vous parlez, qui est un ADN. Donc l'ARN est transformé en ADN proviral.
Donc ARN, c'est acide, nucléique, et puis ADN, c'est acide, nucléique. Okay.
Donc, l'ADN proviral, maintenant, pourra s'intégrer dans les noyaux de l'hôte, et il y aura une autre protéine. Et si vous voulez une enzyme, je parle de protéine pour ne pas compliquer les gens, une autre protéine du viral, du virus, qui va scinder l'ADN de l'homme et intégrer l'ADN proviral, dont le virus, l'ARN qui est du virus qui se transforme en ADN proviral, de la matière virale, qui sera intégré dans l'ADN de l'homme.
Voilà, ça c'est vraiment
c'est trop technique.
Alors, parlons d'une femme enceinte. Nous savons que la femme passe 9 mois de grossesse. Comment ça se passe les 3 premiers mois si, par hasard, la maman est séropositive?
Bon, les 3 premiers mois, généralement, il y a très peu de risques lorsque la femme est enceinte et la femme enceinte est séropositive, d'autant plus que le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore assez développé, l'enfant n'a pas encore les récepteurs dont je parlais tout à l'heure qui pourraient faire passer les virus dans la cellule de l'enfant. Et les problèmes commencent après le troisième mois.
Après le troisième mois, le retour de...
Douzième semaine de grossesse. En ce moment-là, on a déjà... les lymphocytes qui sont déjà formés à une certaine
au niveau de l'enfant.
Au niveau de l'enfant.
Mmh.
Et lorsque le virus passe, comme le virus doit se multiplier, le virus doit se localiser quelque part, doit entrer dans les lymphocytes étant déjà là, étant déjà un peu mature pour ses récepteurs étant déjà en ce moment-là, lorsque le virus pénètre.
Donc, en ce moment-là, la communication entre la mère et l'enfant, c'est toujours au niveau du placenta.
Au niveau du placenta, à l'aide du cordon.
Du cordon ombilical.
Lorsque le virus traverse et passe, les virus trouvent les lymphocytes, l'enfant pourra être infecté. C'est pourquoi, dans la stratégie actuelle, on doit commencer...
Parce que l'enfant n'a pas encore un système de défense.
Ou
à ce niveau. Deuxième semaine, il n'y a pas encore...
Formation, mais les lymphocytes sont déjà là vers la deuxième semaine. C'est ainsi qu'il y a cette possibilité d'infection à partir de la deuxième semaine, beaucoup plus.
Mais qui sont encore fragiles. Le
système est immature.
Immature, ouais.
Mais les lymphocytes sont là, bien qu'ils maturent.
Mmh.
Et ces lymphocytes-là peuvent être infectés par le VIH. Lorsque le virus traverse le placenta et au niveau du fœtus, les lymphocytes sont là et l'enfant est infecté.
Alors, quelles sont les précautions à prendre avant la deuxième semaine?
Justement. Les précautions à prendre, il faut agir à partir de la deuxième semaine. Là, nous savons que les lymphocytes sont là. Je ne peux pas être trop technique. Les lymphocytes sont là. L'enfant pourrait être infecté. La femme est infectée. Il faut commencer la prophylaxie ARV à partir de la deuxième semaine. Là, on est sûr que si le virus passait, au moins les ARV pourraient agir. Les ARV qu'on donne en prophylaxie,
Et pour commencer la prophylaxie ARV, il faut encore faut-il connaître son état sérologique.
Il faut connaître son
état. Donc déjà au niveau de la en amont pendant la consultation les trois premiers mois.
Je n'ai pas voulu parler de ça, je ne parle essentiellement de la femme enceinte séropositive,
oui.
Mais la porte d'entrée de toute chose. Lorsque nous parlons de l'élimination du VIH, il y a des préalables. Pour arriver à éliminer le VIH, il faut que toute femme enceinte arrive à se faire dépister. J'irai même plus loin, pas seulement toute femme enceinte, toute personne en âge de procréer doit arriver à se faire dépister, connaître son statut sérologique.
Oui, on garde un peu moment notre réflexion par rapport à la deuxième semaine. Nous avons deux auditeurs en ligne, Lei Kabanga de Manono Katanga. Bonjour Lei. Bonjour Lei. Voilà, et il y a également Tiyoyo qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Tiyoyo.
Bonjour JS, bonjour les auditeurs.
Vous nous appelez de Lubumbashi, plus précisément au Katanga, et vous voulez poser votre question en rapport avec la recommandation du médecin chez la femme enceinte. C'est quoi votre question?
Ma question a deux volets.
Oui.
Le premier volet est le suivant. Quel conseil le médecin qui est dans l'exclusion, qui peut donner au médecin que je connais bien, qui traite la dame qui est enceinte, mais jusqu'à l'accouchement, il ne semble pas que la dame est enceinte et tout à fait par le fait sida. Quel conseil peut-il donner à ce genre de médecin? La deuxième question que je voudrais poser, est-ce que l'allaitement maternel est strictement interdit chez une femme atteinte par le fait sida?
Donc, l'allaitement maternel.
Oui.
Voilà, donc vous voulez savoir si c'est interdit à une femme qui est séropositive. Merci, Chiyoyo, d'avoir appelé de Lubumbashi. Ezekiel Kazaka, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous voulez parler du mode de transmission?
Oui, j'aimerais un peu poser cette question à notre invité du jour. Et je disais, par quel organe le sida peut se transmettre de la mère à l'enfant, selon que la mère est enceinte?
Merci beaucoup, Ezekiel. Docteur Kitetele, Kiyoyo, a parlé, je ne sais pas si on peut mettre ça dans les comptes des counseling, hein, au niveau, lors de la consultation prénatale. Quand est-ce que le médecin, est-ce que c'est indispensable de faire les counseling pour une femme enceinte?
Oui, nous parlons de l'élimination du VIH. Si nous devons arriver à l'élimination du VIH, arriver à une génération sans sida, cela doit passer nécessairement par les counseling. Donc, toute femme enceinte doit connaître son statut sérologique. Précocement d'ailleurs. Si la femme connaît son statut sérologique, comme je disais tout à l'heure, à partir de la 12e semaine, elle peut commencer la prophylaxie et ça évitera à ce que l'enfant ne puisse être infecté. Et il a dit qu'un médecin qui suit la femme et ne dit pas que la femme est infectée, là, je pense que ce n'est pas normal. Mais est-il qu'il y a des formations qui sont organisées à travers le pays? et on est en train de renforcer les capacités des prestataires. Et je pense que dans les jours à venir, si ce médecin n'est pas formé, il pourra être informé et les choses se passeront autrement.
Ezekiel est arrivé peut-être après, quand nous on parlait de la transmission, du mode de transmission de la mère à l'enfant. Vous pouvez revenir sur ça.
Oui, le mode de transmission, nous avons dit que l'enfant est infecté soit donc à partir de sa mère, peut également être infecté à partir d'une transfusion et par les objets tranchants. Mais nous nous limitons
d'abord la femme enceinte, pendant la grossesse.
Pendant la grossesse, le virus se fait passer de la mère à l'enfant, à partir de la 12e semaine, beaucoup plus, lors de l'accouchement.
Au travers du cordon ombilical.
Oui, effectivement. L'enfant est nourri à travers le cordon ombilical. Et lors de l'accouchement, beaucoup plus, parce qu'il y a les sécrétions vaginales, il y a le sang de la mère qui contient le virus, et s'il y a une petite lésion chez l'enfant, l'enfant sera infecté, et puis par le lait maternel. Il a posé une question concernant l'allaitement maternel, si une femme infectée par le VIH pourrait
arriver.
Hier, on demandait à ce qu'une femme infectée par le VIH puisse allaiter l'enfant de manière exclusive, c'est-à-dire donner rien que le lait maternel et ne pas mélanger avec autre chose. Avec l'évolution de la science, avec la recherche actuellement, on préconise, on n'arrête pas l'allaitement maternel à l'âge de 6 mois. On a les médicaments qui sont là. Nous savons quoi faire pour éviter que l'enfant ne puisse pas être infecté à travers le lait maternel.
Donc, vous parlez de les compléments alimentaires.
Aujourd'hui, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, on donne les aliments des compléments.
Oui.
Il y a les herbes qui sont là. L'enfant qui est né d'une mère séropositive, on donne à cet enfant également une prophylaxie ARV pour éviter que le virus contenu dans le lait maternel ne puisse traverser, si le virus contenu dans le lait maternel traverse chez l'enfant et que ces ARV-là puissent agir, puissent empêcher que le virus-là ne puisse gagner la cellule, se multiplier, que l'enfant ne soit infecté. Donc aujourd'hui, dans l'approche actuelle, à partir de 6 mois, on donne une alimentation mixte qu'on interdisait hier. On peut donner une alimentation mixte accompagnée d'un allaitement protégé. Protégé, c'est-à-dire l'alimentation mixte est accompagnée d'une prophylaxie ARV jusqu'à l'âge de 12 mois.
Et quelle est la probabilité de réussite si jamais toutes ces conditions sont suivies, en tout cas à la lettre, à partir de la 12e semaine ou avant la 12e semaine, quelles sont les probabilités de réussite?
Merci beaucoup. La question me permettra de donner la réponse à l'élimination du VIH.
Mmh.
Hier, avec l'approche qu'on utilisait hier, avec les stratégies qu'on utilisait hier, on arrivait à réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant qui est de 50%. Aujourd'hui, avec les stratégies actuelles, on arrive à réduire ces taux de transmission jusqu'aux alentours, je pourrais dire, de 85%. 95%.
Une variation plus significative.
Oui. Puisque dans les pays du Nord aujourd'hui, ils sont en avance, ils ont commencé depuis longtemps. La transmission du VIH de la mère à l'enfant, aujourd'hui, est inférieure à 5%.
Et aujourd'hui même, le nouveau plan lancé par les Nations Unies dans la lutte contre la transmission du VIH-SIDA chez les enfants, qui parle de zéro nouvelle infection par le VIH-SIDA chez l'enfant d'ici 2015.
Oui, c'est l'objectif, c'est ambitieux, c'est vrai, mais c'est faisable. C'était utopique hier. Avec l'avancée de la recherche, on trouve
qu'on est en RDC par rapport à nos structures de santé, par rapport à la prise en charge d'ailleurs médicale, bon, pour ne pas entrer dans la prise en charge psychosociale ou par rapport à la mère qui est séropositive. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons sur le terrain avec nous, est-ce possible par rapport au renforcement des capacités d'ailleurs de personnel soignant et aussi les malades eux-mêmes, voilà, est-ce qu'il y a possibilité d'atteindre cet objectif?
Possibilité, oui. Pourquoi oui? Parce que tout ce qu'il faut faire pour arriver à l'élimination du VIH de la mère à l'enfant est connu. Les stratégies sont connues. Comment les développer? Tout et tout.
Les moyens à mobiliser.
Mais c'est là le problème.
Le montre le fait que le problème aujourd'hui, si nous pouvons peut-être jeter un regard sur le billet passé par rapport à la santé et par rapport à cette question, selon la recommandation d'ailleurs de l'OMS, on est loin vraiment de l'atteindre, ne fût-ce que même le pourcentage exigé.
Oui, vous avez pratiquement raison. Là, je reviens un peu en arrière. Le mois passé, s'est tenu à Paris, à l'Institut Pasteur, une réunion regroupant 24 pays qui posent un grand problème dans l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, et sont les pays de l'Afrique de l'Ouest et le pays de l'Afrique centrale. On devait voir quels sont les goulots d'étranglement, pourquoi ça n'avance pas alors que les stratégies sont connues. On a même dit que c'était inadmissible aujourd'hui qu'un enfant puisse être infecté par le VIH parce que les stratégies sont connues. La RDC s'est présentée, j'étais là, j'ai participé à cette réunion. Et là, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui posent des grands problèmes. Mais parmi les pays qui posent des grands problèmes, il y a la RDC et le Nigeria. On retrouve plus de 90% des transmissions dans ces deux pays. Donc, il fallait réfléchir comment arriver à lever les goulots d'étranglement. On a un problème sérieux, tout le monde le sait. Dans notre pays, par exemple, la couverture en PTM, si nous prenons en termes de maternité, cette couverture n'est que de 3 à 4%. Alors que si nous prenons un autre pays, comme l'Afrique du Sud ou le Botswana, cette couverture est de plus de 95%. Et c'est pareil pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de pays qui posent ces problèmes.
Voilà, nous reprenons juste un dernier auditeur, Jean-Yves Longo, qui nous appelle de Kindu, Maniema. Bonjour Jean.
Bonjour, monsieur le...
Vous voulez intervenir sur l'enfant né avec le VIH-SIDA, s'il peut vivre pendant combien de temps? C'est ça la question?
Oui, c'est ça la question.
Voilà, vous pouvez poser votre question directement à notre invité.
Je voulais juste savoir qui est son partenaire de la couche.
Voilà, nous avons nous avons un problème avec la ligne. En fait, la question des gens est longue. C'est en rapport avec la durée de vie. La durée de vie pour un enfant qui est né avec le VIH-SIDA.
Merci pour la question. Beaucoup de gens posent cette question. Ce que nous devons savoir, qui ne peut pas seulement un enfant, même un adulte, une personne infectée par le VIH-SIDA peut vivre le plus longtemps que possible. Les recherches ont pu montrer que la durée de vie n'est pas différente entre une personne infectée et une personne non infectée. Si la personne infectée suit scrupuleusement les conseils de son médecin, prend régulièrement son médicament, il vivra le plus longtemps possible. Pour l'enfant, je vous dirais que, par exemple, chez nous, le premier enfant que nous avons suivi, les tout premiers a pu terminer l'université, aujourd'hui il travaille. Il n'est même plus un enfant, c'est un adulte.
Ok. Mais voilà, alors, parce que selon une certaine opinion, un enfant né avec le VIH-SIDA ne peut pas excéder 4 ans, 5 ans.
C'est faux et archi-faux, j'ai donné l'exemple. Aujourd'hui, c'est une personne adulte qui travaille.
Celui qui peut franchir, c'est celui-là qui est sous ARV.
Oui, effectivement, je l'ai dit. Oui. Lorsque la personne prend régulièrement son médicament, suit les conseils.
Mais celui qui ne suit pas, ne peut pas dépasser.
Non. La personne qui ne suit pas ne pourra pas. Effectivement, puisque les systèmes immunitaires, avec le temps, il y aura une certaine défaillance et la personne pourra mourir des infections opportunistes.
Voilà, donc nous sommes très ravis d'avoir reçu le docteur Kipe Télé, Fosca, consultant et expert en pédiatrie, expert en VIH pédiatrique, qui a répondu à toutes nos préoccupations par rapport à cette question sur la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Comment la prévenir? Docteur, il y a beaucoup à dire dans ce sujet. Nous allons y revenir, peut-être pour nous faire la restitution de votre participation aux dernières assises par rapport à cette question qui a été organisée à Paris, vous l'avez dit. Voilà, merci docteur et à très bientôt.
Merci.